Bienvenue dans cette deuxième partie d'Okapi Service. Que faut-il faire pour augmenter le taux de vaccination des enfants en RDC? Nous en parlons avec Dr Okandjo-Kitoloma Jean-Pierre. Il est expert en genre et immunisation. Nous aurons également comme deuxième invité M. Michel Issamouna. Il est coordinateur national du projet Guide 3 cartographie pour la santé. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler au numéro 081 890 63 94 au numéro 099 706 63 94. Envoyez-nous vos témoignages, questions et suggestions au courriel dénommé service@radiocapi.net. C'est aussi possible de poster vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service Tati Mapoukou. C'est moi qui présente ce magazine des faits des sociétés. Marcel Ngombo réalise et coordonne cette émission. La prise de son est assurée par Jean-Noël Mokondo sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bonne condition d'écoute à toutes et à tous.
Radio Okapi vous propose cette semaine une série d'émissions sur le volet stabilisation du mandat de la MONUSCO. Qu'entendez-vous par stabilisation ? Quels sont les principaux mécanismes et étapes importantes du processus de stabilisation ? La stabilisation a-t-elle contribué à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise de la partie est du pays? Des précisions dans nos émissions interactives, magazines thématiques, dossiers et reportages à suivre sur Radio Okapi, la radio de la paix en FM et sur la toile. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Okapi Service, le magazine des faits de société des Radio Okapi. En RDC, la couverture vaccinale chez les enfants âgés de 0 à 5 ans est de 37,5%. Plusieurs facteurs seraient à la base de ces faibles taux de couverture vaccinale sur l'ensemble du territoire national, selon les spécialistes en santé publique. Certaines études démontrent à suffisance qu'il y a également un lien entre les genres et ces faibles taux de vaccination des enfants en RDC. Pourtant, la vaccination des enfants âgés de 0 à 5 ans permet de réduire sensiblement les taux de mortalité infantile et juvéniles, affirment les spécialistes en santé publique. Que faut-il faire pour augmenter les taux de vaccination des enfants en RDC? Nous avons comme premier invité au bout de fil Dr Okandjo Okitoloma Jean-Pierre. Il est spécialiste en genre et immunisation. Bonjour docteur et bienvenue dans Okapi Service.
Oui, bonjour monsieur Tati Mapoukou et bonjour à tous les éditeurs de Radio Okapi.
Première question, quelle est l'importance de la vaccination des enfants à partir dès la naissance, au fait?
Oui, permettez-moi d'apporter un petit correctif. Mmh. Le taux de vaccination évalué à 37,5% concerne les enfants de 12 à 23 mois en RDC selon les enquêtes mixtes de 2018. Mixte, ça veut dire enquête à multiples indicateurs. Enquête en grappe à multiples indicateurs. Mmh. Donc, c'est le rectificatif que je voulais apporter.
Ok.
Alors, pour revenir à votre première question, l'importance de la vaccination chez l'enfant dès la naissance. Comme vous le savez, dans notre pays, la RDC, le calendrier vaccinal, il commence déjà avec un enfant qui vient de naître. Ça veut dire un enfant qui vient de naître aujourd'hui, il a sa dose contre le vaccin contre la tuberculose, qu'on appelle le BCG. Le bacille de Calmette et Guérin, en abrégé BCG, et au même moment il a son vaccin contre la poliomyélite poliomyélite orale, quoi, le VPO. Mmh. Alors ce vaccin, de manière générale, je vais pas entrer en détail, le vaccin il induit une immunité, il induit une protection de l'organisme pour le protéger contre ces maladies à l'avenir. Donc c'est, je peux dire de manière trop simple, c'est ça l'importance de la vaccination ou du vaccin dès la naissance, en fait.
Et ces vaccins sont administrés dans les 3 premiers mois de la naissance ou à partir avant la sortie de la maternité?
Ce vaccin, tel que je viens de décrire là, l'enfant les a dès la naissance. Ça veut dire, avant de sortir de la maternité, l'enfant peut les avoir s'ils sont disponibles. Mmh. Et s'ils ne le sont pas, avant les 2 semaines, il pourra revenir pour les avoir. On les appelle les antigènes d'entrée. Donc, c'est ça la porte d'entrée dans le calendrier des vaccinations, en fait.
Hier, une table ronde a été organisée sur la problématique hein, du faible taux de vaccination en RDC. Dites-nous, quelles sont les grandes lignes qui ont été évoquées au cours de ces travaux?
Oui, merci pour la question. Hier, effectivement, il y a eu une table ronde sur le genre, l'équité et la vaccination. Les grandes lignes par rapport à cette table ronde, c'est le fait que il y a eu les différents décideurs. Là, je pense aux gens du ministère du Genre, Famille et Enfants de la RDC, qui étaient représentés par Madame la Secrétaire Générale aux Genre. Mmh. Et il y a eu aussi le ministère de la Santé, qui était représenté par Madame la Directrice du PEV, du Programme élargi des vaccinations. Et on a eu d'autres autorités, notamment le conseiller des Affaires mondiales Canada et d'autres invités. Alors, avec tous les partenaires aussi techniques et financiers qui appuient la vaccination au pays et au niveau international, on a eu aussi des partenaires ou des participants à l'extérieur du pays qui ont suivi aussi en ligne la même table ronde. En fait, il était question de faire une analyse sur la situation actuelle de vaccination au niveau du pays et de voir les pistes de solutions qu'on peut dégager pour essayer d'inverser la tendance, ça veut dire de contribuer à l'augmentation de la couverture vaccinale. Bien sûr, en mettant au centre l'aspect genre, équité et vaccination.
Et au cours de ces travaux, il y a eu des présentations relatives à ce qui fait que les taux de couverture vaccinale soient si faibles, 37,5% sur l'ensemble du territoire national. Dites-nous, quels sont les facteurs à la base de ces faibles taux de couverture vaccinale?
Pour être précis, il y a eu des différents panels et les différents panélistes ont pu montrer leurs expériences par rapport à leurs pratiques de tous les jours dans le domaine des vaccinations, donc des expériences innovantes bien sûr pour contribuer à l'augmentation de la couverture vaccinale, mais en amont comme vous l'avez dit, le faible taux de vaccination, les causes qui ont été identifiées, c'est notamment les inégalités à l'accès aux services de santé, le niveau d'éducation des soignants, le faible niveau d'autonomie des femmes, ainsi que l'isolement géographique. Donc ça c'est de manière globale, mais à cela s'ajoute aussi dans certaines provinces du pays, là où on assiste à des conflits armés ou aussi à des mouvements itératifs au niveau des frontières, cela aussi impacte particulièrement l'accès aux services de vaccination.
La religion également a des incidences hein, sur la vaccination des enfants dans certaines régions de la RDC.
Effectivement, là c'est quand nous faisons maintenant une analyse sexo-spécifique pour voir de manière particulière si on prend l'homme de manière particulière, on prend la femme de manière particulière aussi, et on regarde ce qui influence, là si on considère l'homme et la femme, on regarde aussi les croyances qui sont autour de ces des normes et responsabilités de l'homme et la femme dans la société, il y a la notion du genre qui naît. Et dans cette notion du genre, j'ai cité les inégalités dans l'accès aux services de santé. Et dans ces inégalités, vous verrez que on ne les présente pas clairement. Dans le genre, souvent, c'est que le commun des mortels. Hein, depuis le jeune enfance, là, on vous dira que c'est le sexe masculin qui est le plus fort, c'est le sexe masculin qu'il faut le plus privilégier. Et il y a des rôles sociaux qu'on attribue directement à la femme. Par exemple, le fait d'amener à l'enfant la vaccination. Donc, même si elle est surchargée, il n'y a que elle qui doit le faire.
Amener l'enfant.
Même si elle est malade. Oui, même si elle est malade, il n'y a que elle. Et pourtant, l'homme peut aussi amener l'enfant à la vaccination.
Tout à fait.
Alors, le fait qu'il y a des messages négatifs qui tournent autour de la vaccination en donnant un autre rôle à l'homme, ça c'est la société. Et c'est de la même façon que la religion, certaines religions aussi interfèrent sur l'homme, que ce soit la femme ou l'homme, la religion interfère. Donc tout ça, on met dans le compte des concepts qui interfèrent un peu sur le genre, et c'est ça qui dicte un peu le comportement sociétal de l'homme et de la femme, et bien sûr, ça a des implications aussi négatives sur la vaccination au final.
En même temps, docteur, aussi, nous devons affirmer que les choses évoluent. Hein. De plus en plus, les femmes font des études poussées, les hommes également. Et je crois que les deux doivent travailler ensemble pour respecter les calendriers de vaccination de leurs enfants.
Effectivement, les choses évoluent parce que le genre lui-même, il est transversal, il est dynamique. Quand nous disons le genre aussi est en train d'évoluer, vous avez dit les choses évoluent. Effectivement, vous avez raison. C'est parce que le genre lui-même, il est changeable. Donc tout ce qu'on avait comme conception autour des rôles et des rôles attribués à l'homme et à la femme vers les années 60, ce n'est pas la même chose qu'on voit ces rôles-là aujourd'hui. Donc c'est dans ce sens-là que le genre est en train d'évoluer. Mais beaucoup de gens ne s'en aperçoivent pas si on reste statique. Mais vous allez vous rendre compte effectivement que les choses sont en train d'évoluer.
Oui, docteur, mais qu'est-ce qui fait que les taux de couverture vaccinale soient faibles malgré cette évolution de la société?
Le taux de vaccination ou la couverture vaccinale reste encore faible parce qu'il y a, comme je l'ai cité auparavant, là, il y a beaucoup de
des paramètres, des facteurs.
Des paramètres. Mais nous citons, et notamment, nous faisons allusion à la table ronde d'hier. On a mis l'accent sur le genre, l'équité et la vaccination. Alors, nous disons, le genre, bien sûr, si on y accorde une attention particulière, c'est pas, bien sûr, une panacée pour juguler toute cette problématique-là, mais c'est l'une des stratégies que le ministère de la Santé et aussi tous les partenaires, la société civile, comme vous l'avez vu hier, et aujourd'hui, les gens sont conscients que si on appliquait bien les choses, si on changeait suffisamment la conception de la communauté, de la façon de voir comment les séances de vaccination doivent se mener, ça pourrait contribuer à l'augmentation de la couverture vaccinale. Donc c'est dans ce sens-là que les choses sont considérées actuellement dans le pays et ainsi que dans le monde.
Docteur Okuto, nous allons revenir à vous. Nous retournons cette fois-ci au standard hein, pour donner la parole à la première vague des auditeurs qui nous ont appelés. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-63-94 au numéro 081-890-63-94.
Radio Okapi vous propose cette semaine une série d'émissions sur le volet stabilisation du mandat de la MONUSCO. Qu'entendez-vous par stabilisation? Quels sont les principaux mécanismes et étapes importantes du processus de stabilisation? La stabilisation a-t-elle contribué à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise de la partie est du pays? Des précisions dans nos émissions interactives, magazines thématiques, dossiers et reportages à suivre sur Radio Okapi, la radio de la paix en FM et sur la toile. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Tati Mampoukou.
Okapi. Monsieur Ntamboué, vous êtes à Beni, au Nord Kivu. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Oui, bonjour Monsieur Tati, bonjour aussi à tous les auteurs de Radio Okapi.
Nous parlons de l'importance de la vaccination des enfants de 0 à 5 ans. Quelle est la question que vous voulez poser à notre invité?
Oui, avant de poser la question, j'ai d'abord une inquiétude parce que auparavant, nos parents amenaient les enfants à la vaccination. Mais aujourd'hui, nous avons vu que il y a baisse parce que la plupart des parents n'amènent plus leurs enfants à la vaccination. Et cela laisse à ce que beaucoup des enfants puissent être paralysés ou soit ça occasionne de la mort précoce par rapport à la non-vaccination. Parce que il faut toujours respecter chaque fois ces calendriers vaccinal. Maintenant, je peux donner l'exemple de nous qui sommes ici à Beni. À Beni, nous avons déjà vu que tout est déjà politisé. Et suite à cette politisation-là de toutes choses, laissez à ce que les parents suite aux primaires, donc ne se soucient presque plus de la vaccination de leurs enfants. Alors que ça, c'est un danger ou bien c'est un bombe à retardement que nous préparons. Maintenant, j'aimerais poser une petite question à notre invité.
Allez-y.
Lorsqu'on était des enfants, on voyait les vaccinateurs passer porte à porte. Alors pourquoi ce mécanisme-là ne continue pas aujourd'hui? Ou si cela ne leur facilite pas? Ici à Beni, on a déjà mis en place les séries d'animation communautaire. Dans chaque cellule, il y a au moins cette équipe-là qui est composée au moins de 14 personnes. Pourquoi ne pas le faire donc que ces membres de CAC-là puissent chaque fois les faire passer porte à porte pour que toutes les circulations qui sont très importantes pour la population. Merci.
Merci beaucoup, M. Ntamboué. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Beni. Allons cette fois-ci à Tshikapa pour donner la parole à M. José. Bonjour. Monsieur José, bonjour. Il est temps que la réalisation puisse rappeler Monsieur José. Docteur Okito, que répondez-vous à Ntamboué de Beni?
Oui, Monsieur Ntamboué, merci beaucoup pour la question. Mais je me rends compte qu'il a posé une question et puis au même moment, il tentait de donner aussi la réponse.
Oui, il a dit qu'à Beni, les parents ne font plus attention à ces rendez-vous-là. Parce qu'il y a beau. Est-ce que la situation sécuritaire peut avoir des incidences sur la vaccination des enfants? Et il a également témoigné que par le passé, les agents qui vaccinaient faisaient du porte-à-porte, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, il y a aussi un relais communautaire qui est mis en place dans presque tout le quartier, mais ces agents ne font pas un effort d'aller vers les parents, dans les ménages pour donner de vaccins aux enfants.
Ok. Donc, je reprends. Au début, les parents amenaient leurs enfants. Maintenant, ils ne le font plus. Il a dit que la vaccination, cette situation est presque politisée, ainsi de suite. Je pense que quand j'ai évoqué les facteurs qui contribuent à la au faible taux de vaccination, c'était aussi l'instabilité, donc les zones ou les provinces là où il y a les guerres et là où il y a aussi un nombre important des mouvements des populations au niveau des frontières. Vous voyez que ça, ce sont des populations particulières qui, si on ne fait pas attention, en tout cas, ces gens-là, ce sont parmi les défavorisés, au fait. Ce sont les gens défavorisés sur le plan communicationnel. Alors, il faut des stratégies adaptées. Et c'est dans ce sens-là que le genre intervient. Parce que les gens trouvent son fondement dans les croyances. les croyances, les préjugés. C'est à travers des croyances, des préjugés qu'on a, que naît aussi la stigmatisation. Et au final, on aura trop de défavorisés. Alors, si on sensibilise partout, comme si...
Docteur Okito, s'il vous plaît, je reviens vers vous. Hein. Gardez l'écoute, le temps de donner la parole aux auditeurs. Hein. Ils sont nombreux à appeler, donc on leur donne priorité. Et puis vous allez répondre à leurs préoccupations. Allons cette fois-ci à Kanyoka pour donner la parole à Kachai. Bienvenue dans Okapi Service.
Oui, merci beaucoup, monsieur Tati Mapoukou, et bonjour à l'invité. Vraiment, je suis touché par le sujet, monsieur Tati, parce que le sujet touche à la vie de la population congolaise, aux enfants qui doivent avoir un avenir meilleur
exact.
Dans leur croissance. Mais, vous savez, mon frère de Béni a insisté sur la sensibilisation. Auparavant, monsieur Tati, moi, votre frère Kachai, je n'ai pas souffert de la rougeole à mon enfance. Pourquoi? Parce que j'ai été vacciné à temps. Et cette vaccination-là se faisait suite à une sensibilisation forte de ce que l'on appelait campagne de vaccination. Et cette campagne-là, les gens passaient de porte à porte et les villageois, par exemple, de Kanyoka ne pouvaient pas se rendre au centre de santé pour être vaccinés. Mais qu'est-ce que nous avons constaté actuellement? D'abord, faible sensibilisation de la population. Deuxièmement, des accouchements au domicile intempestifs. Alors, monsieur Tati, la semaine passée, j'ai assisté à une situation. Quelques mamans qui se sont accouchées au domicile, mais qui ont perdu effectivement de forces, ils sont tombés malades, des choses pareilles. Alors, imaginez-vous une maman qui ne suivait pas la consultation prénatale. Parce que c'est à partir de la consultation prénatale qu'on peut lui prodiguer des conseils tels que lorsque l'enfant va atteindre tel ou tel autre mois,
il doit avoir tel vaccin. Ok.
Alors, maintenant, cette dame qui n'a pas suivi la consultation prénatale lors de la vaccination de l'enfant, peut-elle encore avoir l'idée de s'amener avec le dit enfant au centre de santé pour qu'il soit vacciné?
Non.
C'est un problème.
Il faut qu'elle soit sensibilisée.
Et surtout ça, si au centre-ville, les mamans savent qu'on doit vacciner les enfants, mais au village, on perd de vie parce que du matin au soir, nous sommes au champ, nous faisons des travaux champêtres. À Kanyoka, nous vivons des travaux champêtres. Maintenant que les mamans sont au champ, en train de faire leurs travaux, et les enfants doivent être vaccinés. Qui doit amener les enfants au centre? Le papa, vous savez que nos papas sont surtout ceux-là qui jouent au jeu des dames. Ils n'ont pas du temps d'amener les enfants au centre de santé. Parfois, ils sont sous l'inganda de Chichampa et consorts. Très peu de papas sont ceux-là qui amènent les enfants au centre de santé. C'est un travail de maman. Maintenant, s'il n'y a pas la sensibilisation forte, une bonne campagne organisée, pensez-vous que ces enfants-là auront un avenir meilleur? Ça, c'est un. De deux, le gouvernement congolais doit prendre sa responsabilité. Parce que c'est lorsque nous sommes en vie que nous devons soutenir les actions du gouvernement. Mais si donc nous ne sommes pas en vie, nous ne voulons pas surtout amener les enfants à pouvoir avoir une bonne vaccination pour leur survie et faire face à certaines maladies, certaines épidémies, en tout cas, à ce moment-là, on n'aura pas fait un bon travail. Alors j'insiste sur le fait que lorsqu'il y a vaccination, qu'il y ait d'abord campagne, une forte campagne de sensibilisation des populations à tous les niveaux et que cela se fasse comme ça se faisait auparavant, des portes à portes, des portes à portes. Et à ce moment-là, ça sera une très bonne chose.
Merci beaucoup, Kachai. Oui, allez-y rapidement.
Oui, que l'invité puisse sensibiliser les mamans, surtout les mamans du village, de nos villages, à pouvoir suivre aussi la consultation prénatale parce que c'est une très bonne chose.
Merci beaucoup, Kachai. Oui, nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kanyoka. Nous sommes là au Kasaï central. Cette fois-ci, allons à Mbandaka pour donner la parole à Platini, à qui nous disons bonjour.
Tati Mapoutou, bonjour. Bonjour, les invités. Je salue tout le monde.
Allez droit au but. Quelle est la question que vous voulez poser à notre invité?
Voilà, merci beaucoup Tati. Je crois que la thématique du jour est louable parce que c'est une thématique là qui touche nos vies humaines, surtout les enfants. Et je crois que aujourd'hui à RD Congo, les enfants naissent à tout moment. Et la sujet du jour, ça coïncide, c'est lié, ce que je veux quand même parler, c'est lié dans la sensibilisation. Mmh. Aujourd'hui, Tati Maputo, vous allez constater ensemble avec moi que on cherche maintenant à augmenter les taux de vaccination à RD Congo, mais ça sera toujours possible. Mais pourquoi je dis impossible, pardon? Parce que il n'y a pas une très bonne sensibilisation porte à porte, comme l'ami de Kanuka a dit là. Donc ici, ça, la sensibilisation, ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. C'est les personnes soignantes qui ont censé de faire ce travail-là. Mmh. Aujourd'hui, il y a aussi la politisation qui est entrée là-dedans, tout ça, parce que chaque député veut toujours prendre leur territoire en main pour mettre son fils, son frère, tout ça, pour faire le travail. C'est pour laquelle les taux de sensibilisation, ça commence à rabattre toujours au bas. Et c'est tout ce que moi je peux vous parler, parce que ici, je suis dans la ville de Manaka, souvent je passe au niveau de descente et de santé, tout ça. Mais si je vois nos mamans avec les enfants, vous voyez que non, ils ne sont pas nombreux. Mais si vous passez au niveau de leur maison, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'enfants, l'enfant qui est né depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais été vaccinés. Mais je ne sais pas là, c'est une question de l'identification. Comment? Là, je me pose la question. Parce que moi aussi, j'ai subi un système là que je peux quand même vous rappeler. Parce que j'ai mon enfant aujourd'hui qui est à 10 mois. Mmh. Et je pense que quand elle est née dans un hôpital quelconque, mais sa maman là, elle était, comment on dit là, elle était dans un hôpital. Quand elle est fait sortir, au niveau de l'hôpital, on leur dit que on ne peut pas les vacciner parce que au niveau de les kilos là, tout ça, et tu ne peux pas venir ici chez nous. Donc nous, on est incapable de les faire vacciner. Voilà un peu des choses là, Tati. Donc c'est que moi je peux quand même vous rappeler avec les invités qu'aujourd'hui nous avons une très 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 manque de sensibilisation. Donc la sensibilisation doit s'augmenter à tout moment, nos politiciens et même les sports aussi au niveau de comme la radio Capi qui est suivie partout à RD Congo, les sports, les émissions comme au Capi École là, on doit quand même parler l'objectif de la vaccination, parce qu'aujourd'hui si on ne peut pas vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Mais aujourd'hui, les enfants meurent à tout moment. Il y a beaucoup de maladies, tout ça, parce que les enfants n'ont pas. Alors, moi, je vais, si les UTP nous répondent par rapport à cette question, qui est réellement censé à faire ce travail-là? Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à connaître rapidement la personne qui est censée faire ce travail. Le politicien prend ça en main hein, pour mettre les bons frères par-ci, par-là, tout ça. Et aujourd'hui, là, on n'arrive pas à trouver vraiment la guerre des causes. Si les UTP peut nous donner la vraie éclaircissement par rapport à ma question du jour. Voilà un peu, Tati. Que je peux quand même vous remercier pour la thématique du jour.
Merci beaucoup, Platini. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Mbandaka. Docteur Okandjo-Okitto, que dites-vous à la préoccupation des auditeurs hein? Faible sensibilisation et faible sensibilisation, il y a également la politisation des campagnes de sensibilisation sur terrain.
Merci à nos trois auditeurs pour leurs préoccupations. Je me suis rendu compte très vite que les trois questions ont un dénominateur commun.
Oui.
Allô?
Oui,
les trois questions.
C'est récoupe,
les trois questions ont quand même un dénominateur commun. Vous me recevez correctement?
Tout à fait.
Voilà. Les trois questions, je disais, ont un dénominateur commun. C'est la faible sensibilisation de la population. En fait, il est reconnu que la communication n'est pas encore à la hauteur par rapport aux problèmes qui se posent, aux problèmes de vaccination qui se posent réellement dans notre société. J'ai parlé que les défavorisés, ils sont très nombreux. Quand on est dans des milieux où il y a à tout moment des guerres, on est dans des milieux où il y a un mouvement important, un mouvement régulier des populations au niveau des frontières, et tout ce monde-là sont des défavorisés. Ça veut dire quoi? Pour les sensibiliser, pour organiser une sensibilisation en faveur de la vaccination dans ces milieux, on ne va pas le faire comme si on était dans une province où il y a accalmie. Donc, il faut des stratégies appropriées au cas par cas. C'est ainsi que et par rapport à tous les défavorisés, il faut une sensibilisation appropriée. Mmh. Et juste à ce niveau, jusque-là, c'est ce qui n'est pas encore mis au point. Mais les gens sont conscients que pour l'instant, il faut y travailler parce que ça vaut la peine. Parce qu'imaginez-vous, dans ces défavorisés-là, s'ils sont très nombreux, et les défavorisés, ils ne sont pas seulement dans ces milieux d'instabilité. J'ai parlé des inégalités dans l'accès aux services de santé. Et dans les inégalités dans l'accès aux services de santé, on voit par exemple les adolescentes qui tombent enceintes. Elles ont besoin de leur vaccin. Mais on connaît toutes ces stigmatisations autour des adolescentes. Elles sont stigmatisées. Il y en a qui se posent la question comment elles sont tombées enceintes très tôt. Deux fois, quand elles croisent, elles viennent de la vaccination, elles croisent leurs collègues des classes qui viennent de l'école. Et imaginez-vous le regard qu'on peut porter sur elles. Donc tout ça, ça les frustre pour ne pas aller à la vaccination. Ça, ce sont les défavorisés. Les autres défavorisés, il y en a beaucoup. Les handicapés, par exemple, qui ont besoin aussi d'un encadrement particulier. Ça veut dire quoi? Les types de défavorisés, les adolescentes, les célibataires qui tombent enceintes, les veuves, les albinos handicapés qui sont enceintes, méritent avoir une sensibilisation appropriée. Je suis d'accord avec eux quand ils parlent des visites à domicile. En fait, le tout ne pourra pas se résoudre à une sensibilisation par le passage d'un mobilisateur dans le quartier. Non. Les défavorisés, là, ont besoin d'un accompagnement spécifique, un accompagnement particulier, une visite à domicile spéciale. Donc, c'est là où il faut jouer. Alors, les gens disent qu'à l'époque, on voyait les vaccins passer porte à porte, ainsi de suite, tout ça. Il faut pas qu'on fasse un peu de l'amalgame. Le PEV, le programme élargi de la vaccination au pays, il a des stratégies spécifiques par rapport à chaque prestation. Quand il s'agit de la vaccination de routine, la vaccination de chaque mois, on fait ce qu'on appelle une stratégie fixe. Une stratégie fixe, ça veut dire les gens quittent leur maison et ils amènent les enfants à la vaccination. Alors, pourquoi? C'est parce qu'il y a des injections, ainsi de suite, porte à porte. On ne pourra pas se promener avec des seringues, ainsi de suite, pour aller chercher les gens et les enfants. Et on pourra même ne pas garantir...
bien garder les produits.
Bien garder les vaccins et même la gestion des déchets pourra poser problème.
Exact.
Alors, dans la vaccination des routines, on utilise la stratégie fixe. Et dès lors qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui sont éloignés, qui sont au-delà des 5 kilomètres... Vous voyez, ces gens-là, ils sont parmi les défavorisés pour cette vaccination en fixe. Il faut adapter une autre stratégie qu'on appelle la stratégie avancée. Et la stratégie avancée, c'est pour aller rechercher les gens qui sont au-delà des 5 kilomètres de la structure qui vaccine régulièrement. Vous voyez, donc on rapproche un peu le service de vaccination. Ça, c'est la stratégie avancée. Mais celle-là, à un moment donné, elle devient aussi inefficace si les gens sont encore au-delà de 8
plus
à 10
loin.
Kilomètres
ouais.
de la structure. Là, il faut encore adapter les autres stratégies qu'on appelle la stratégie mobile. Mobile, ça veut dire on se déplace vraiment très loin de là où on travaille habituellement. Alors, ça, c'est quand on a des seringues, on a des vaccins, des injections à donner. Mais ça peut arriver que le pays se rend compte qu'on a accumulé beaucoup d'enfants qui n'ont pas
qui ont raté certaines doses, certains rendez-vous de vaccination.
Tout à fait. Et quand on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants dans cette catégorie là et aussi il y a une épidémie aussi qui surgit, une épidémie d'une maladie évitable par la vaccination, là on augmente la cible, on peut aller jusqu'à 5 ans. Et si c'est contre la poliomyélite, comme vous le savez, la poliomyélite, c'est juste 3 gouttes. Et là, la stratégie, c'est une stratégie porte à porte pour aller vacciner les enfants. Alors, mais si on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas de rougeole, pour la rougeole, l'injection ou le vaccin, c'est un vaccin injectable. Alors, ce vaccin-là, on ne va pas aller porte à porte avec les vaccins contre la rougeole, contre la fièvre jaune. Là, il faut une stratégie fixe dans un site de vaccination qu'on va identifier. Le site peut être le centre de santé habituel, le site peut être, par convention avec la communauté, on peut l'amener chez les chefs du village, ainsi de suite, ou dans une église, mais qu'on soit dans l'ombre, sous ombre si vous voulez, et puis que les gens arrivent vers le site parce qu'il faut de l'ordre, il faut un circuit, il faut l'entrée, il faut la sortie, et il faut gérer les déchets après. Donc c'est un peu ça par rapport au questionnement du passage porte à porte pour vacciner.
Donc, docteur Okito Kachai a témoigné par exemple que à Kanyoka dans le Kasaï central, vacciner les enfants c'est une tâche généralement dédiée aux femmes. Hein. Ce sont les femmes qui s'en occupent. Les hommes ne s'occupent pas vraiment de ça. Mais nous comprenons que c'est important que l'homme et la femme s'impliquent dans ces différents rendez-vous. C'est très très important.
Voilà, tout à fait. Je pense que vous avez déjà donné la réponse. C'était même l'objet de la table ronde d'hier. Le thème, c'est le genre, l'équité et la vaccination. Le genre, je l'ai dit, que nos amis aussi comprennent, que le genre est l'une des stratégies aujourd'hui qui peut aussi contribuer à l'augmentation de la couverture vaccinale. Qui dit genre, voyez par là les croyances, les normes sociales que la société a conférées à l'homme ou à la femme. Et dans ces genres-là, c'est en ce moment-là qu'on dit que le travail de vaccination, amener l'enfant à la vaccination, ça ne concerne que la femme. Monsieur Tati, vous vous rappelez même hier dans la salle, j'ai donné l'exemple de l'homme qui joue au jeu des dames. Mmh. Ça corroborait avec l'exemple de
Kachai, de Kanyoka.
De Kachai, voilà.
Qui a parlé de Tichampa, les hommes qui passent le temps à boire la bière indigène au lieu de...
Voilà. Ok, donc il a parlé aussi des jeux des dames.
Des jeux des dames aussi, oui.
Je l'ai dit hier, là, dans la salle.
Oui.
Effectivement, le déficit communicationnel à notre niveau aussi, sans tenir compte du genre dans la sensibilisation, sans mettre une dose, sans rendre notre message sensible au genre, a mis un peu de flou aussi. Pourquoi ? Parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on dit ? Les mamans, même lui-même Kachai, est tombé dans ce piège. Il a dit qu'il faut qu'on sensibilise toujours les mamans en leur disant qu'ils amènent les enfants à la vaccination. Non, les vaccins, amener l'enfant à la vaccination, c'est pas seulement le travail de la maman. Imaginez-vous que la maman est malade. Elle est sérieusement malade. Et que la carte de la vaccination est sur la table. Le centre de santé qui vaccine, il est à 5 minutes de la maison. Est-ce que vous allez obligatoirement forcément réveiller la maman pour qu'elle amène l'enfant ?
Non.
Donc le papa, il est là. Vous n'allez pas me dire qu'il va toujours rester jouer à son jeu de dames et toujours prendre son chichampa. Donc le chichampa pour l'homme de Mbandaka, il va appeler ça Agene. Mmh. C'est ça qu'on appelle chichampa.
On comprend par là que c'est l'homme et la femme doivent s'impliquer pour ces différents rendez-vous de vaccination des enfants. Merci beaucoup, docteur Okandjo Okito. Lama Jean-Pierre, nous rappelons que vous êtes expert en genre et immunisation. À la prochaine occasion.
Ok, merci beaucoup, monsieur Tati. Radio Okapi.
À Bukavu. Sur 95.3 FM.
Donnons cette fois-ci la parole à notre deuxième invité. Il s'agit de Michel Issamouna. Il est coordinateur national du projet Gruid 3, cartographie pour la santé. Bonjour, monsieur Michel.
Bonjour, monsieur Patrick.
Bienvenue dans Okapi Service. D'entrée de jeu, dites-nous, c'est quoi le projet Gruid 3, cartographie pour la santé?
Merci beaucoup. En fait, le projet GRI 3, cartographie pour la santé, c'est un projet qui vise à renforcer l'efficacité, mais aussi l'équité des interventions de vaccination en République démocratique du Congo.
Et une étude a été menée sur terrain. Dites-nous, pouvez-vous nous donner les grandes lignes de cette enquête que vous avez eu à réaliser sur terrain et quels sont les sites qui ont été retenus ainsi que les résultats qui ont été dégagés à la conclusion de ces monitorings?
Ok. En fait, nous avons mené déjà des enquêtes de terrain. Il y a plusieurs activités que le projet a eu à mener. Parce que ce qu'il faut dire en passant, c'est que le projet a différents axes de travail. Et selon différents axes de travail, nous avons mené aussi différentes activités et bien différentes enquêtes. Et pour ce qui est du genre, il y a beaucoup plus de formations, mais aussi des enquêtes qui ont été menées sur le terrain, et bien évidemment. Et sur cela, nous avons pu comprendre, en termes de résultats, sur les genres, faut comprendre que la couverture vaccinale complète dépasse pour les enfants si on prend âgés de 12 à 23 mois en République démocratique du Congo et au moins de 37 0,5%, qui est vraiment un taux qui est vraiment faible.
Oui, alors nous allons retourner au standard hein, parce qu'il y a des auditeurs qui appellent. Allons cette fois-ci à Kisangani pour donner la parole à Monsieur Vicky. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, nous parlons de l'importance de la vaccination. Quelle est la question que vous voulez poser à notre invité?
Ok, merci. Je remercie d'abord tous les auditeurs de la radio Okapi. Mmh. Je remercie aussi l'intervenant de tout à l'heure. J'ai juste une petite question à notre répondant. Le problème, c'est ceci. Toutes les stratégies utilisées par la vaccination, il y a une personne qui est chargée de mise en œuvre. Est-ce que le gouvernement, par le biais des PEV, ne peut pas améliorer les conditions de travail de la personne qu'on appelle infirmier? Parce que c'est lui qui est chargé de mise en œuvre. Toutes ces stratégies tournent autour de lui. Stratégie fixe, stratégie avancée, tout ça là, les rapports, c'est l'infirmier. Mais son revenu est très, très bas. Vous lui exigez d'aller faire 5, 3 kilomètres à vélo ou soit à pied. Mais son revenu à la fin du mois, c'est moins de 50 000 francs par mois. Est-ce que cette personne, est-ce qu'il va vraiment faire ce travail en bonne condition? Donc c'est ça ma préoccupation. Est-ce qu'il n'y a pas dans toutes les réunions qu'ils entrent, qu'ils font à Kinshasa ou en Europe, partout là, est-ce qu'ils parlent des situations de vie de l'infirmier? Merci.
Merci beaucoup Monsieur Vicky. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kisangani. Retournons cette fois-ci à Kinshasa pour donner la parole à Monsieur Roger. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à Radio Kati, bonjour à l'invité.
Quelle est la question que vous voulez poser à notre invité? Allez droit au but.
La question est de savoir, parce que le premier intervenant, quand il parlait sur il est passé de porte à porte. Mmh. Moi, je me rappelle.
La liaison se dégrade avec Roger Kamayi de Kinshasa. Roger Kamayi, vous êtes là?
Oui, je suis là, je vous écoute.
Allez-y.
En 2011-2012, je me rappelle, c'était à Kananga. Il y a eu la campagne de vaccination qui s'est déroulée de porte à porte contre la rougeole. Et il y a eu une église.
La liaison est interrompue avec Roger Kamayi qui est à Kinshasa. Roger Kamayi, vous êtes là? Non, il est parti. La réalisation va lui rappeler. Monsieur Michel, dites-nous les conditions de travail aussi des agents qui font la vaccination. Ça a été évoqué hier au cours des travaux. Monsieur, oui, Monsieur Michel.
Oui, en fait, ça a été évoqué, mais ce qu'il faut rappeler, ce que je peux rappeler, c'est que la réponse à cette question, à cette question, moi je ne pourrais pas le donner parfaitement la réponse à cette question, mais ce que je peux dire, c'est que par rapport au projet, il faut dire premièrement que parmi les aspects qui permettent de pouvoir réduire le taux qui permettre d'augmenter la vaccination, le taux de vaccination dans le pays, il y a la disponibilité des vaccins. Et pour cela, on a besoin d'une accessibilité géographique des structures sanitaires. Mais aussi, pourquoi? Parce que dans chaque structure sanitaire, il y a quand même des stratégies aussi qui peuvent être utilisées, mais aussi adaptées par rapport à des milliers. Et pour cela, on a besoin des informations géolocalisées, il y a des informations d'accessibilité. Et dans un des axes de travail du projet, où on parle de la cartographie, on essaye ensemble avec différents partenaires de pouvoir appuyer le ministère de la Santé et bien sûr les IP, ou bien les bureaux centraux des zones de santé, à pouvoir parfaire la cartographie afin que nous ayons une très bonne image. Parce que on se dit que si on sait qu'il y a une localité à 50 km ou bien à 250 km du bureau central de la PCZ et qu'il y a possibilité d'y accéder, je pense que on peut aussi facilement faire parvenir des outils de travail
à ces infirmiers titulaires afin qu'ils puissent bien faire leur travail. Et ça, pour nous, ça a été un apport que nous avons pu apporter au sein de différentes zones de santé.
Et dans le cadre de la cartographie, est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur les zones à problème où la couverture est vraiment faible ici en RDC?
Ok, alors, dans le cadre du projet, nous nous sommes focalisés en termes de cartographie sanitaire sur 5 provinces. Donc, il y a la province de Kinshasa, il y a la province du Kasaï, la province du Kasaï oriental, la province de l'Omami, et aussi la province du Haut-Katanga. Alors, chaque province a ses réalités. Je vous donnerai par exemple un exemple pour la province du Haut-Katanga, où nous avons eu certaines difficultés pour atteindre certaines aires de santé. Vous avez par exemple dans la zone Pueto, déjà Pueto, pour accéder à Pueto à partir de Lubumbashi, c'est plus de 500 km. Et c'est directement, quand vous êtes à Pueto, dans la zone de santé de Pueto, la dernière aire de santé, donc l'aire de santé la plus éloignée, se trouve à au moins 300 km. Ce qui veut dire que, et aussi ce qu'il faut, il faut retenir, c'est que ce ne sont pas des routes à choisir.
Praticables.
Des routes à terre praticables. Mmh. Il faut traverser des rivières. On a vu des cas où un infirmier pour atteindre sa zone de santé doit passer une rivière. Il n'y a pas de pirogue et il doit prendre des villageois qui vont transporter la moto de l'IPE ensemble avec tout son matériel et marcher dans l'eau. Vous voyez, il y a des zones pareilles et nous en avons vu plusieurs. Il y a aussi, par exemple, si on prend le cas de la zone de santé du DTC, qui s'emmène à plus de 600 km de Tchikapa, vous voyez, les conditions d'accès ne sont pas vraiment réunies. Et ça, ce sont des cas que nous avons eu à relever en termes de difficultés, en fait.
Et pour apporter solution, je crois que parce que là, il y a la dimension, l'effet éloignement des sites où l'on peut aller dans des zones de santé, et ça, c'est très compliqué. Et quelle solution adaptée à ces problèmes-là?
Alors, jusqu'à là, nous, la solution que nous avons adaptée, premièrement, il y a des zones qui n'étaient pas premièrement connues en termes de localité. Et même pour apporter des vaccins, peut-être qu'ils ne connaissaient pas l'existence d'une localité. Et nous, ce qu'on a fait, on essaye d'aider le ministère de la Santé à pouvoir parfaire la carte sanitaire du pays. Et on estime qu'ensemble, parce qu'il n'y a pas que Grittois comme partenaire, il y a aussi d'autres partenaires et aussi d'autres bailleurs de fonds qui, sur base d'une bonne visibilité, en termes de cartographie sanitaire, peuvent apporter, parce que lorsqu'on parle de cartographie sanitaire, on identifie aussi toutes ces difficultés d'accès, afin de permettre à l'État, mais aussi aux différents bailleurs, de comprendre que si nous voulons faire atteindre des vaccins dans une zone qui se trouve par exemple, à 800 km de la capitale provinciale, il faut quand même mettre des moyens en termes d'accessibilité. Donc ça, c'est un apport que nous, on essaye une contribution que nous essayons d'apporter au sein de la cartographie sanitaire.
Monsieur Michel Issamouna, nous rappelons que vous êtes coordinateur national du projet GRID 3, cartographie pour la santé. Merci d'avoir été avec nous dans Okapi Service et à la prochaine occasion. Au revoir.
Beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.